des polars et des notes.
Bonjour à tous les confinés et à tous les travailleurs et travailleuses indispensables. Ravi de vous retrouver après cette longue absence due à ce vicieux virus mystérieux qui était bien le seul à avancer masqué lorsqu'il nous est tombé dessus. Vous avez sans doute fait votre heure de jogging, les courses et un tour à la pharmacie. C'est le moment de vous poser pour cette heure en notre compagnie. Nouveau numéro de Des Polars et des Notes, donc, à suivre sur Radio Évasion, Radio Balise ou Radio Laser, ou bien en podcast comme d'habitude. Une heure à parler de littérature, noire, mais pas que, et du monde du livre en général qui souffre bien en ce moment. Il n'est pas le seul, mais tout de même, là, ça devient inquiétant. Pierre-Yves est comme les scouts, toujours prêt. C'est d'ailleurs grâce à ces trouvailles techniques que nous pouvons être ensemble aujourd'hui, malgré les mesures sanitaires en vigueur. Merci à lui. Du côté de l'édition, beaucoup de sorties ont été différées. L'avalanche devrait se situer entre fin mai et fin juin, mais ne vous inquiétez pas, il reste tout de même bien des romans à découvrir, à commencer par « Rien dans la nuit que des fantômes » de Chanel Benz, qui est paru aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Vert et qui a été traduit de l'anglais par David Fockenberg. Alors, ce roman nous raconte l'histoire de Billie James, une jeune femme revenant sur sa terre natale, une petite bourgade du Mississippi, qu'elle a quittée en compagnie de sa mère, une artiste blanche, 30 ans plus tôt, après la mort accidentelle de son père. Celui-ci, Cliff James, était un poète noir, écrivain, militant pour les droits civiques. Et Billie vient d'hériter de la vieille bicoque de sa grand-mère et elle tente de retracer les circonstances de l'accident fatal. Elle va aller de surprise en surprise, y compris sur son propre compte quand elle était toute gamine. Et malgré l'hostilité des Blancs et face aux mensonges de sa propre famille qui est restée au pays. La mère de Billie lui a donné une peau à peine colorée et elle met du temps à comprendre la cause des rebuffades qu'elle subit parce qu'elle n'a jamais, été confrontée à son côté noir. C'est un très très beau roman dans lequel on suit pas à pas les recherches de Billie dans la pesanteur du sud des États-Unis. Il y a un petit côté Faulkner, les non-dits, les menaces à peine voilées qui la surprennent et tant d'autres de pistes qu'elle va remonter jusqu'à son passé, jusqu'à la vérité bien sûr de son père. Il y a un peu de musique à l'intérieur, dont Clean Up Woman de Betty Wright. Un personnage essentiel des enquêtes, pourtant peu présent dans le polar, c'est le technicien de police scientifique. Malgré des séries TV telles Les Experts, qui ont un succès énorme, où d'ailleurs Les Experts mènent les affaires de bout en bout, dans la littérature noire en France, ils jouent plutôt ce qu'on appelle des silhouettes au cinéma, et ils ne font que passer. C'est en partie réparé maintenant avec l'excellent polar Les Militantes, qui est paru aux éditions du Rouergue, dans la collection Rouergue Noir, avec Claire Raphaël, son auteur, qui est avec nous pour en parler. Bonjour Claire.
Bonjour.
Donc votre personnage principal, c'est Alice Yekavian, c'est comme ça qu'on dit, qui est experte en balistique et vous êtes vous-même ingénieur de la police scientifique et vous avez eu envie de donner de la visibilité à ces personnes capitales aujourd'hui dans les dossiers mais que l'on voit peu.
Oui, absolument, j'avais envie d'écrire un roman moderne et de donner de la place à ces personnages de la police scientifique qui apportent à l'enquête une technicité, mais qui ont aussi un regard sur l'enquête parce qu'ils sont un petit peu à distance, un petit peu extérieurs, ils sont peu confrontés aux auteurs puisqu'ils ne pratiquent pas d'audition. Et je pensais que le point de vue rationnel, scientifique d'un technicien en l'armement balistique, c'est aussi ma propre spécialité au sein de la police scientifique. Je pensais que c'était quelque chose d'intéressant à développer.
Mais les experts, là, comme on voit à la télé, en France, ça n'existe pas. Ceux qui font les enquêtes du début jusqu'à la fin, en dehors des officiers de police judiciaire.
La grande différence entre ce que nous présente la télévision et la réalité, c'est d'une part qu'à la télévision, les agents sont toujours en réussite. Dès qu'ils cherchent, ils trouvent. Or, dans la réalité, il y a beaucoup d'échecs. Il faut beaucoup chercher pour trouver seulement de temps en temps des éléments exploitables. Et l'autre différence, c'est que dans la fiction, les personnels scientifiques ont tous les pouvoirs. Ils ont non seulement leurs propres compétences de technicien, mais ils ont également des prérogatives en termes juridiques. Or, dans la réalité en France, il y a séparation entre l'acte judiciaire qui est exercé par l'officier de police judiciaire et les actes techniques qui sont exercés par les fonctionnaires de la police scientifique.
On en revient au roman Les Militantes, donc, qui débute avec un meurtre étrange. C'est une femme qui est abattue sur un trottoir de 9 balles. Et les enveloppes, les douilles, quoi, sont gravées à ses initiales. Et Alice, donc, comme balisticienne, va être chargée d'étudier ces éléments un peu énigmatiques. Et c'est le lieutenant Mielik qui est chargé de l'enquête. Et Alice va tout de suite se passionner parce que les violences faites aux femmes, c'est hélas particulièrement courant. Mais ce type de meurtre, ça n'existe pratiquement pas, quoi.
Alors effectivement, j'ai voulu dans ce livre donner de la place aux femmes, et notamment avec ce personnage de Béatrice qui est la première victime, qui est une ancienne femme battue, qui a réussi à sortir de ça, et non seulement à en sortir, mais à devenir militante. Et elle est assassinée très brutalement, d'une manière tout à fait inhabituelle, puisque les meurtres par arme à feu de femmes sont extrêmement rares. Elle est assassinée de manière violente et de manière tout à fait énigmatique. L'importance de ce crime apparaît aux enquêteurs, à Alice, dès le début.
Oui, et puis Alice, elle est assez sensible au sujet, et l'hypothèse du règlement de compte d'un mari violent ou d'un amant violent paraît peu plausible. Donc elle veut absolument, absolument remonter la piste en dehors de son laboratoire.
Absolument, l'hypothèse du crime commis par un de ses proches paraît assez vite peu crédible, et c'est du coup son engagement militant qui peut-être apparaît comme l'origine de la violence qu'elle a subie, cet engagement qu'elle a eu en faveur de femmes au sein d'une association, cet engagement au cours duquel elle a rencontré un autre militant, Grégoire, qui est un personnage assez complexe, ancien militant d'extrême gauche, un homme dont on ne sait pas toujours très bien s'il maîtrise son engagement ou s'il est à la dérive. Et Alice veut absolument coller à l'enquête et s'intéresser à cette enquête qui devient de plus en plus complexe et qu'elle veut absolument voir aboutir.
Mais Grégoire, justement, c'est un des personnages centraux de votre roman. Il est cynique, provocateur, un peu paumé. Un peu écolo, tout le monde va se figer dessus. Moi, j'y ai vu un petit peu un clin d'œil à la gauche radicale qui a mis longtemps à se pencher sur les violences sexistes, en pensant que ce qu'il fallait avant tout, c'était arrêter l'oppression capitaliste, etc. Et qu'on verrait après pour ne serait-ce que les violences faites aux minorités sexuelles, comme les LGBT, etc., et les violences faites aux femmes. Je voyais là comme un clin d'œil de votre part à cette politique qui a duré très très longtemps.
Oui, c'est vrai qu'une certaine gauche révolutionnaire a eu de grandes ambitions et a oublié parfois les petits combats et les combats du quotidien. Et les combats du quotidien, c'est les combats des femmes qui sont opprimées, c'est les combats des enfants qui sont maltraités, c'est les combats des petits employés qui veulent pas forcément prendre le pouvoir dans l'entreprise, mais qui simplement voudraient avoir de bonnes conditions de travail. Oui, c'est un homme qui a eu des rêves trop grands et qui a du mal à s'en remettre.
Et il a du mal à s'en remettre tout juste parce qu'il se sent un petit peu inutile maintenant, non?
Oui, il se sent peut-être un peu inutile, peut-être un peu abandonné par ses camarades, dont certainement beaucoup se sont rangés, alors que lui est resté combatif, mais il se cherche une cause.
Oui, ça c'est vrai qu'il cherche une cause et il a bien du mal. Mais par contre, il va surtout aussi chercher des alibis parce qu'il y a d'autres meurtres qui suivent sur un mode opératoire différent, mais enfin toujours avec cette fameuse histoire des douilles qui sont avec les initiales. Et ça vous permet, j'ai l'impression que vous aviez envie de faire différents portraits de femmes et différents portraits de victimes et de montrer que ça touchait absolument tous les milieux et tous les types de personnalités, quoi.
Oui, absolument. Les violences faites aux femmes touchent tous les milieux, toutes les classes sociales et sont très répandues. On commence à voir apparaître une augmentation des plaintes, mais pendant très longtemps, les femmes renonçaient à déposer plainte, ou bien elles allaient déposer plainte et puis elles retiraient leur plainte. Elles n'allaient pas au bout de la démarche, qui est une démarche très très difficile, qui suppose un changement de vie, qui suppose de savoir se faire aider, demander de l'aide, trouver les bonnes personnes. Oui, j'avais envie de donner à ce roman, de donner dans ce roman la possibilité de faire des portraits de femmes qui sont des femmes qui sont blessées, mais qui sont des femmes qui ont gardé une force. Parce que je crois qu'une victime, même qui a été beaucoup humiliée, qui a subi beaucoup de violence, peut garder en elle une force.
Voilà, vous le montrez très bien avec justement le personnel de l'association. Et puis même avec Alice. Alice qui est une battante et qui s'immisce plus que bien dans l'enquête parce qu'elle fait même avancer les choses. Mais elle est à la fois très très rigoureuse dans son travail et en même temps elle est intuitive. Et être mêlée aux investigations de terrain, c'est l'impression que j'ai eue en lisant, ça lui a fait un petit peu perdre le fragile équilibre entre la rigueur et l'intuition et qu'elle se perd un peu.
Oui, elle prend des initiatives, elle va au-delà de sa mission qui serait d'être en soutien, en assistance technique des enquêteurs. Elle prend des initiatives et elle prend le risque de s'y perdre un peu parce que finalement, c'est pas sa compétence, elle n'a pas forcément la légitimité, mais elle est passionnée par cette affaire et elle a cette impression qu'elle peut-être réussir à trouver l'élément déterminant qui permettra la résolution de l'affaire. Elle s'approprie d'une certaine manière cette enquête.
Et parallèlement, on va absolument pas parler de ce qui arrive parce que c'est un suspense, hein, faut pas l'oublier. C'est une enquête, c'est vraiment vraiment un polar. Alice, elle se rend compte qu'on n'est jamais aussi bon que dans ce qu'on sait faire vraiment.
Oui, absolument. Elle se rend compte que son travail, son rôle, qui peut paraître modeste dans son laboratoire, peut avoir beaucoup d'importance, mais qu'il faut parfois aller plus loin que les apparences. Et elle a peut-être besoin d'être encouragée. Elle a fait une rencontre d'une vieille dame qui s'était fait voler son portefeuille. Et
Oui.
cette vieille dame, qui est tout à fait extérieure à l'enquête, va aussi venir lui donner cette confiance dont elle a peut-être besoin pour aller un peu plus loin, pour franchir le pas nécessaire.
Voilà, vous me l'enlevez parce que je voulais revenir à la vieille dame et la jeune voleuse. Et j'ai l'impression que vous aviez voulu montrer qu'il y a tissé des liens de solidarité entre les femmes.
Oui, absolument. Ces femmes peuvent assez vite entrer en sympathie l'une avec l'autre, alors que elles se connaissent à peine, alors que rien ne les attache. Mais la sympathie vient très vite entre ces personnages.
Il y a une phrase qui m'a fait tiquer quand vous dites « les armes en France sont aussi nombreuses que les animaux domestiques ». C'est vrai?
Oui, il y a beaucoup d'armes qui circulent en France, beaucoup d'armes de chasse, parce que nous sommes aussi un pays de chasseurs, et puis beaucoup d'armes qui sont dans les greniers, qui sont issues des guerres, qui n'ont jamais été rendues aux autorités. On les retrouve suite à des cambriolages au cours desquels elles sont volées, des armes parfois anciennes, des armes de la Première Guerre, parfois même plus anciennes. Il y a effectivement énormément d'armes qui circulent en France.
Et est-ce que nous allons retrouver Alice dans de nouvelles aventures?
Oui, le deuxième opus est prêt, je l'ai remis à mon éditeur et il sera publié certainement l'an prochain.
Eh bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Et je voulais vous demander aussi, vous êtes poète également.
Oui.
Et ça c'est un trait commun de très nombreux auteurs de polars, à commencer par Léo Mallet par exemple, Nestor Burma. Et quel lien vous voyez entre les deux?
Alors moi, j'ai commencé par la poésie et je ne pensais pas devenir romancière, mais petit à petit, je suis passée de la poésie en vers à la poésie en prose et puis à des formes plus narratives. Il y a un lien entre le roman social et la poésie, parce que pour moi, le polar, c'est un roman social.
Avant tout, oui.
Il y a un lien dans le sens où le poète comme l'auteur du roman social, c'est celui qui se met en observation du monde. Alors le poète est beaucoup en observation de la beauté de la nature, des relations intimes. L'auteur de roman social, lui, est en observation de la communauté, de la société, des faits politiques, mais on est observateur, on est un petit peu à distance et en même temps tout à fait intéressé, en empathie aussi avec ce qu'on observe. Je crois qu'il faut, pour écrire, aimer le sujet sur lequel on écrit.
Ah, toujours, et ses personnages. Il y a une dernière question vite fait. Est-ce que vous auriez un livre coup de cœur à recommander aux auditeurs pour tenir jusqu'à la fin du confinement là?
Un livre coup de cœur, moi je pourrais vous proposer un livre que je viens de lire, qui est d'un auteur qui est publié dans ma maison d'édition et qui est donc publié au Horwerk. C'est un roman policier qui a été écrit par Gilles Séban, qui s'appelle Cirque mort. C'est un polar, un polar étrange.
Un
polar
c'est
étrange
un monde.
Dans un monde, de l'enfance et de la folie.
Et du cirque. Oui, c'est absolument. Merci beaucoup, Claire Raphaël. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Les Militantes, qui est paru aux éditions du Rouergue dans la collection Le Rouergue Noir. Et il y a un seul titre de musique dans votre livre, on va se l'écouter, c'est Les Histoires d'A, des Rita Mitsuko. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Comme on est ensemble pour se changer les idées, foin du virus, parlons donc de tuerie de masse, histoire de rigoler un peu, dans un collège des États-Unis, dans un lycée, avec un roman décapant de Boris Marm, qui est paru aux éditions Liana Levy, qui s'appelle « Aux armes ». Bonjour Boris.
Bonjour Patrick, merci de me recevoir dans votre émission.
Ah, mais je vous en prie, surtout qu'on est confiné là, donc on a le temps. Et je crois que vous êtes inspiré, vous, en fait, d'une fusillade bien réelle pour votre roman.
Oui, tout à fait. C'est une fusillade qui a eu lieu il y a un peu moins de 2 ans maintenant, ou un peu plus, je ne sais plus exactement, 2018, oui. C'est la fusillade qui a eu lieu à Parkland, en Floride. Et donc, cette fusillade m'a inspiré, non pas exactement au moment de cette fusillade, mais quelques jours après, quand on a découvert qu'un officier qui était en charge de la sécurité dans l'établissement n'est pas entré dans le bâtiment pour intervenir et puis sauver les gamins. Et à ce moment-là, toute l'opinion et les médias se sont retournés contre lui. Et c'est là que j'ai eu l'idée justement de m'emparer un peu de ce destin, le destin de cet homme, et d'écrire un roman à partir de ça.
Alors l'histoire s'ouvre effectivement sur un code rouge. Alors code rouge, c'est grave, c'est truc maximum, une alerte maximale dans un lycée. Et l'officier en question, c'est Wayne Chambers, qui est chargé de la sécurité par le shérif Atticus. Il est chargé de la sécurité du lycée.
Exactement.
Et là, pendant 3 chapitres, vous décrivez, mais seconde par seconde, ce qui se passe dans la tête de Wayne Chambers, qui est pris entre deux feux. C'est le cas de le dire, entre la peur de rentrer et une peur qui n'est pas que la peur physique de se faire tuer, mais aussi la peur d'être tué et de ne pas pouvoir continuer à protéger les enfants.
Oui.
Et la peur que les tueurs sortent du bâtiment, et auquel cas, s'il est à l'intérieur, il ne pourra pas les attraper à l'extérieur. Et donc, il y a toutes les hésitations, tous les protocoles, parce qu'il y a des protocoles qui ont été établis, il n'est pas tout seul, Wayne, il a un aide avec lui, et lui est en charge de la sécurité, et il est vraiment coincé, quoi.
Exactement, oui. Alors ce qui m'a intéressé, moi, c'est de travailler vraiment sur un temps très, très resserré, seconde par seconde, pour raconter cette fusillade de son point de vue, d'autant plus que, justement, le temps va s'accélérer après, au moment où les médias entrent dans la danse, en quelque sorte, pour reconstituer l'événement. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment voilà que l'action soit millimétrée. Et donc on a un personnage en effet qui du coup est au cœur même de l'action. C'est lui qui a ce pouvoir de décision d'intervenir ou pas. C'est lui seul qui est armé. Et comme vous le disiez, oui, il a différentes peurs. Alors le mot peur est à comprendre dans différents sens parce qu'il appréhende en effet la situation de manière très très différente. Alors on pourrait considérer qu'il a la trouille de rentrer, que c'est un lâche, mais en même temps, il respecte tout un protocole, il s'enferme dans ce protocole, et puis il a surtout des certitudes que l'action peut se déplacer. S'il a le malheur de rentrer dans ce bâtiment, le tueur peut en sortir, il peut s'attaquer au reste de l'école, et donc lui, voilà, reste à l'extérieur comme une sorte de dernier barrage pour protéger le reste de l'établissement, sauf qu'il passe à côté de l'action, d'une certaine manière, et il passe à côté de son destin de héros.
Et sur le moment, ça se passe plutôt bien. Quand il rentre, finalement, bah, l'action est finie. Il y a 14 ou 15 morts, enfin, je ne sais plus, dont on pense le tueur présumé qui s'est suicidé. Et ça se passe relativement bien. Le shérif lui dit d'aller se reposer. Tout se passe nickel. Jusqu'à temps qu'il y ait une indiscrétion et que, avec les caméras et tout ça, on se rend compte qu'il est rentré dans le bâtiment, parce que là, pendant un temps, on a cru qu'il était dans le bâtiment pendant l'action, et on se rend compte que tout d'un coup, qu'il est rentré dans le bâtiment après l'action. Et alors là, c'est le déchaînement absolument total.
Oui, total. Alors, c'est vrai que bon, le shérif l'a découvert avant, en fait, cette non-intervention, mais d'une certaine manière, il y avait une sorte de
la caution.
Voilà. Et c'est à partir du moment où, en effet, il y a cette vidéo qui sort, et comme souvent dans l'actualité, en effet, c'est pas sur le moment même qu'on découvre telle ou telle chose, mais au fur et à mesure. Et ce qui était fascinant avec même la tuerie existantes, c'est que juste un an et demi après, il y avait encore des vidéos qui surgissaient, on voyait dans The Culture, donc on a des pièces comme ça qui ressortent de manière surprenante. Et donc là, en effet, tout l'accuse à ce moment-là, et ça va être véritablement ce déchaînement. Et là, il va être complètement dépossédé de la situation, et la police elle-même est dépossédée de cette situation et est obligée de le lâcher, de le jeter en quelque sorte en pâture à l'opinion.
Il est dépossédé de la situation, mais il est dépossédé bien autre chose, parce que Wayne Chambers, quand on regarde bien, c'est relativement un pauvre type qui est policier parce que son père était lui-même policier, et son père est mort au travail. Mais alors attention, d'habitude dans les polars, les pères policiers qui meurent au travail, ils ont pris une balle ou ils se sont fait assassiner parce qu'ils ont fait un acte glorieux. Lui, il est mort connement d'un infarctus à son bureau.
Exactement.
Et puis il a Lynette qui est une mère extrêmement possessive qui n'a que lui et qui le lui répète à longueur de journée. Et en fait, le pauvre Wayne Chambers, rien ne lui appartient sauf sa qualité de policier et sa qualité de protecteur. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui s'effondre. C'est même plus, son univers vient d'imploser. Là.
Exactement, oui. En effet, il porte l'uniforme du justicier. Il a la panoplie du bon flic. Alors, c'est vrai que ce métier-là lui donne une certaine aura, un certain charisme. Et là, il perd absolument tout. Et en effet, on découvre un type assez simple, plutôt touchant, qui vit avec cette mère qui a un très fort caractère et qui du coup est extrêmement possessive, et c'est plutôt elle qui va incarner l'action face à ce déchaînement médiatique, tandis que lui subit et voit en effet toutes ses représentations, son monde se détruire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a en quelque sorte un monde secret à lui, hein. C'est dans le sous-sol de la maison, comme dans beaucoup de maisons aux États-Unis, on a des basements comme ça qui sont aménagés, et lui il a ses trains. Il a ses maquettes de décors et ses trains, un petit peu comme un enfant. Et ce monde-là, c'est la seule chose qui lui reste et qui va au fur et à mesure être contaminé par l'extérieur, parce que non seulement il fait face de plein fouet aux attaques de ces médias, de l'opinion, mais c'est intérieurement aussi qu'une lutte s'engage face à sa culpabilité. Et puis surtout, lui est convaincu depuis le début qu'il n'a pas eu peur, ce n'est pas une question de peur, et en quelque sorte cette opinion publique, ces médias vont le travailler pour lui faire admettre qu'il est un lâche, qu'il a peur. Donc il y a vraiment tout ce combat intérieur entre lui et lui, cette transformation du personnage qui d'une certaine manière devient le coupable à la place du coupable.
Mais il vit toujours dans le semblant, c'est-à-dire que Wayne, il a une apparence de vie familiale, de vie maritale, parce que la serveuse du diner où il va chercher son café le matin a une petite phrase gentille pour lui. C'est un petit peu comme s'il se levait et que sa femme lui disait bonjour chérie. Il vit dans l'illusion d'une mère aimante, alors qu'en fait Lynette, si elle prend sa défense, c'est avant tout parce qu'elle veut qu'il garde son salaire.
Oui, aussi.
Parce qu'elle est extrêmement vénale, cette femme.
Oui, puis qu'il s'occupe de lui aussi, mais c'est pas...
Voilà. Donc il vit dans l'illusion totale, et tout d'un coup c'est la fin de ses illusions.
Oui, ce qui m'a intéressé aussi, moi, c'est un petit peu ce contraste qu'on retrouve aux États-Unis, hein, même si bien sûr les gens sont bien plus profonds et bien plus complexes, mais parfois c'est saisissant un petit peu cette sorte de gentillesse, d'affection dans les rapports, mais juste en surface. Et justement, voilà, c'est ce rapport avec cette serveuse, c'est cette image du costume du héros. Donc on est vraiment comme ça dans les apparences, puis d'un seul coup, en effet, la réalité arrive et frappe de plein fouet. C'est un petit peu comme sa mère aussi, qui rêvait de devenir une grande chanteuse de comédie musicale qui avait fait un début de carrière, et donc qui incarne une autre forme d'héroïne, et qui pareil ira de désillusion en désillusion.
En désillusion.
Donc c'est ça qui m'a amusé aussi à représenter c'est cette Amérique un petit peu des illusions, avec ces différentes formes d'héroïsme qui sont promues, hein, l'héroïsme par les armes, ou alors tous ces héros, par exemple, de comédie musicale qui fleurissent dans la culture américaine, et donc de jouer un petit peu justement avec ces artifices-là, et voir comment comment ils peuvent évoluer aussi justement dans une situation bien plus critique.
Et là, des héros, il y en a des millions. Et alors, les millions de héros, ils sont derrière leurs ordinateurs, oui, sur les réseaux sociaux, et eux, ils seraient tous morts pour sauver les gosses. Tous. Il n'y en a pas un qui hésiterait. Tous, ils y seraient allés, et donc, ils sont en position, eux, puisque eux n'auraient pas hésité, de juger Wen. Et ça va être un déferlement, c'est vraiment ce qu'on appelle un shitstorm, mm-hmm, sur ce pauvre Wen Somers qui vraiment se retrouve absolument tout seul. Sa mère prend un avocat, mais même l'avocat, Freddy Fox, le renard, lui, il capitule à son tour. Il dit non, il n'y a rien à faire, quoi. Parce qu'en plus de tous ces héros et héroïnes qui sont derrière leurs écrans, surgit les chaînes d'infos en continu, qui là vont presque cristalliser la haine contre Wen Chambers en montant des coups un peu pourris, toujours sur de l'émotionnel racoleur entre les familles des victimes, Wen, etc., le pardon. Il y a un monde qui se crée à partir de rien, à partir de gens qui n'étaient pas sur place.
Mmh. Oui, ce qui m'a intéressé, c'est un petit peu de rendre ce mouvement suite à l'événement, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement qui a eu lieu, mais en même temps, l'événement se poursuit par la suite. Il est d'abord reconstitué comme ça par toutes les chaînes d'information, par les médias, avec les différentes réactions et les réseaux. Et au fur et à mesure, d'autres événements se créent, dont chaque spectateur ou chaque internaute devient en quelque sorte l'acteur. Et donc, c'est vrai que beaucoup de personnes se déchaînent, beaucoup de personnes se mettent à la place des victimes, à la place de Wayne lui-même, auraient été prêts à intervenir. Alors, il y en a quelques-uns, malgré tout, qui le défendent. Il y a une parole qui essaie de se construire avec une sorte de réflexion aussi pour considérer la situation dans son ensemble. Et c'est vrai que ces voix sont presque parfois inaudibles parce que justement cette opinion, elle est gagnée comme ça par une émotion très forte. Alors on le voit en ce moment même avec l'actualité, c'est-à-dire que c'est parfois difficile d'avoir une parole rationnelle.
Là où je voulais en venir.
On ne maîtrise plus la situation, et c'est d'autant plus flagrant en ce moment que même la parole scientifique patauge un peu et ne sait pas où elle va encore. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, n'importe qui devient acteur, et ces médias, ces réseaux, en effet, alimentent cela, mais plus dans une logique, pour moi, enfin c'est ce que je montrais dans le roman, de spectacle d'une certaine manière. C'est un spectacle d'abord de la reconstitution, puis un spectacle qui se continue avec des clashs, avec des polémiques. Et à ce moment-là, on a aussi une société qui cherche des repères, qui a besoin aussi de symboles. Et c'est vrai que dans ce roman, le tueur, il passe un petit peu à la trappe, et celui qui devient le monstre par-dessus tout, c'est non plus le tueur, mais c'est le héros manqué.
Celui qui a essayé d'arrêter la tuerie.
Exactement, oui.
Mais il y a une position qui est absolument intenable, c'est la position modérée. C'est-à-dire ceux qui disent « on ne sait pas trop, on n'y était pas ». Et ça, c'est absolument insupportable. C'est comme aujourd'hui, il y a une semaine, ceux qui disaient « la chloroquine, on n'en sait rien, scientifiquement, ce n'est pas prouvé ». Alors, rien que de dire ça, c'était montrer qu'on était contre la chloroquine, oui, parce qu'il fallait absolument être pour. La position de modérer, de dire ben, « on ne sait pas, il y a des enquêtes, il faut attendre », ça, c'est absolument inaudible aujourd'hui. Et il y a une phrase qui dans votre livre qui explique bien ça, c'est quand vous dites « on se divertit, on s'émeut, on se documente, on like, on dislike, on commente, on réagit, on s'insurge, on existe autour de l'événement ». C'est-à-dire que tout d'un coup, on devient acteur d'un événement majeur et capital auquel on n'aurait pas eu accès sans les médias.
Oui. Oui, tout à fait. Et vu qu'on est dans un flux en continu, c'est que chaque jour, quand on regarde les médias, on écoute la radio, on va sur Internet, on va de découverte en découverte. Alors maintenant, c'est plus la chloroquine qu'elle vend en poupe, c'est autre chose. La semaine dernière, c'était la nicotine. Enfin, ça en devient presque comique parfois. On se dit que ce virus joue avec nos raisonnements, avec nos émotions. C'est vrai que tout se construit, et je pense que là, c'est encore plus flagrant. Alors, dans une tuerie, c'est vrai que bon, ça répond un petit peu à des codes, et les États-Unis sont habitués à ces tueries. Alors, ce que j'ai essayé dans le roman, c'est justement de brouiller un peu ces pistes au fur et à mesure. Le tueur ne correspond pas au tueur attendu, le héros n'est pas forcément ce héros-là. Il y a tout un jeu autour de la question du masque, justement, parce que j'ai essayé de jouer un petit peu avec cette opinion, avec ces mouvements-là pour perturber, parce que plus cette opinion, justement, est perturbée, c'est un petit petit peu comme un coup de pied dans la fourmilière, c'est que ça secoue tout le monde, puis ça se remet en marche, ça cherche autrement. Et là, c'est un petit peu pareil en ce moment. C'est vrai que ça s'agit dans tous les sens.
Dans tous les sens.
En fait, il n'y a aucune vérité pour l'instant. Et c'est vrai que une semaine, il y a encore deux semaines, si vous disiez, mais non, la chloroquine, il faut attendre. En effet, on passait presque pour un oiseau de mauvais augure.
Pour des traîtres.
Ouais, ou des traîtres, voilà. Et maintenant, c'est déjà fortement discuté. Et c'est vrai aussi que on peut voir différentes formes de médias. Hein. On a quelques médias qui sont encore critiques, qui sont dans la réflexion. Alors parfois, c'est aussi un excès inverse, c'est d'être uniquement dans la critique. Mais c'est vrai, sinon, il y a aussi toute une actualité qui montre les choses, mais sans forcément de profondeur.
Ce ne sont pas vraiment les médias mainstream.
Oui, c'est ça, comme une sorte de spectacle. On regarde ce qui se passe, et puis le curseur se déplace, la caméra se déplace. Alors, au début, c'était beaucoup dans les hôpitaux, maintenant, on sort des hôpitaux. Et c'est assez, assez fascinant, mais c'est vrai que parfois, on se demande où est la pensée.
Alors, vous avez écrit aussi « L'Amérique bascule aujourd'hui dans l'égocratie disruptive ». Et je me demande si on ne pourrait pas dire le monde.
Oui, ah ben évidemment, oui. Non, c'est mon. Disons que, étant donné le sujet du bouquin, l'éditorialiste qui écrivait ça écrivait en fonction de l'Amérique, puisque l'événement se passait aux États-Unis. Mais mon roman, je lui donne une.
Je crois que la phrase n'est pas là par hasard.
Non,
quoi.
Bien sûr, exactement. Donc il y a des échos. Alors de temps en temps, en effet, j'essaye de. Dans ce roman, de garder une certaine neutralité pour être le plus polyphonique possible. C'est-à-dire qu'il y a plein de voix dans ce roman. Et mon but, c'était surtout de ne jamais trancher parce que tout est absolument fascinant, même la bêtise la plus profonde est parfois fascinant quand on l'incarne soi-même, quand on laisse aller aussi
souvent même.
Sa parole. Voilà. Donc, il y a un côté un peu presque jouissif dans l'écriture. Enfin, ce côté-là, je l'ai eu au moment où j'ai épousé chacune de ces voix. Alors, bien sûr, voilà, l'égocratie disruptive. En effet, il y a quelques échos au mode langagière, on va dire. Et c'est un peu les mots qui reviennent. Là, en ce moment, ça sera voilà, chloroquine, déconfinement. Mais voilà, à chaque fois, le vocabulaire évolue aussi avec l'actualité.
Il y a un prochain roman en route ?
Oui, je suis en plein dans l'écriture de ce nouveau roman.
Et pour finir, est-ce que vous auriez un livre à recommander pour terminer ce déconfinement en beauté ?
Je suis sur le point de terminer un roman que je voulais lire depuis longtemps, c'est Des Orientales de Neza Javadi.
Très beau roman,
voilà, et qui permet de se transporter en effet à la fois dans d'un point de vue historique et géographique. Et c'est une très très belle histoire familiale et un très beau destin personnel.
Exactement. Merci beaucoup. Je rappelle, le titre du livre, c'est « Aux armes » de Boris Marm et c'est paru chez Liane Lévy. Merci beaucoup, Boris. On va se quitter avec Van Morrison.
Un grand merci.
Qui apparaît dans le livre, Van Morrison, « And It Stoned Me ». Merci.
Au revoir, merci.
Half a mile from the county fair and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Hands are full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. It don't rain all day. And it stoned me to my soul. Stoned me just like Jelly Roll. And it stoned me. Yet it stoned me to my soul. Stoned me just like going home. And it stoned. The rain let up and the sun came up and we were getting dry. Almost let a pickup truck nearly pass us by. So he jumped right in the driver grin and he dropped us up the road. Yeah, we looked at the swim and we jumped right in at the mansion fishing pole.
let it run all over me. Yeah, that storm made to my soul. Storm made just like Charlie Rose. Yeah, that storm made. Yeah, that storm made to my soul.
Les livres, c'est bien beau d'en parler, mais pour les lire, il faut les acheter. Et le meilleur endroit pour cela, c'est une librairie indépendante, évidemment, tout le monde le sait. Alors, des librairies qui étaient déjà fragilisées avant la crise sanitaire et très durement touchées par les mesures de confinement. Donc, pour faire un point sur leur situation, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Van Hul de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne.
Bonjour Patrick.
Alors, tu es à moitié dans la réouverture, là déjà, tu fais du drive, je crois.
Oui, c'est ça, depuis vendredi dernier, j'ai commencé à faire du drive, 2 heures toutes les 48 heures, c'est-à-dire que j'ai fait 2 heures vendredi après-midi, je vais faire aujourd'hui 2 heures jeudi, en allant comme ça, tout doucement, vers la réouverture qui semble être programmée pour après le 11 mai.
Mais tu n'as pas de date précise, quoi. Je veux dire, on t'a pas dit tu pourras rouvrir à tel jour, telle heure, etc.
Non, aujourd'hui, nous ne savons pas si le 11 mai est une réouverture totale. Nous ne savons pas si c'est le 11 mai. Nous ne savons pas dans quelles conditions. Je suis de très près les communiqués du syndicat de la librairie française. Et puis, je suis également de très près parce que je suis en relation assez étroite avec les services de la mairie de Lille et l'association de commerçants auquel j'adhère à Lille. Et là, nous sommes en train de préparer un plan de réouverture, mais nous n'avons pas la date exacte. Finalement, le 11 mai, c'est une date qui a été annoncée par le président de la République dans son dernier discours, sa dernière allocution, mais nous n'en savons pas plus à l'heure d'aujourd'hui.
Alors, en attendant, moi, j'ai vu que sur Internet, les réseaux sociaux, qu'il y a un grand nombre d'initiatives qui sont nées pour aider à la survie des librairies les plus touchées. Et qu'on peut commander, pendant le confinement, on peut commander des livres à son libraire indépendant.
Oui, on peut commander des livres. Alors, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, la chaîne du livre n'a pas repris. Donc, on vit sur les stocks, mais dans la librairie, on sait très bien que dans chacune de nos librairies, il y a des stocks importants d'ouvrages, parfois en un seul exemplaire, nombreuses références, parfois plusieurs exemplaires de la même référence. Alors, il faut s'attacher à 2 choses. Moi, je m'attache beaucoup à soutenir les livres qui sont sortis et que j'avais choisis, puisque Place Ronde, chaque livre pénétrant dans la librairie a été choisi, il n'y a aucun imposé. Eh bien, ce sont les derniers nés, tous ceux qui sont nés à partir du 15 février, et qui sont mornés finalement, puisque nos librairies ont été fermées par arrêté administratif le 17 mars dernier à midi. Et ces livres-là étaient sur la table depuis 8-15 jours, et ils n'ont pas eu le temps de naître.
Les pauvres auteurs, là, ils n'ont vraiment pas eu de chance.
Alors là, les pauvres auteurs, c'est vraiment zéro. Alors, du coup, ce qui a été lancé sur les réseaux sociaux est vraiment super. C'est vraiment super pour aider la librairie, mais ça, c'est l'embouchure, finalement, de la chaîne du livre. Mais à la source, il y a tous les auteurs, et entre les deux, il y a les éditeurs et les distributeurs ou les diffuseurs. Et donc, pour les auteurs, il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées sur les réseaux sociaux de libraires dont on entend pas mal la voix sur les grandes ondes de la radio. Je pense à Nathalie Coudert en particulier, qui est libraire dans le Tarn-et-Garonne.
Oui, qui était sur un livre un jour cette semaine.
Oui, c'est ça, et qui a lancé avec Frédéric De Gelde un endroit où aller. Et il y a des rencontres virtuelles qui sont faites pour les auteurs. Moi, je vais en faire une ce dimanche, à partir de 17h30, via Instagram Live, avec Stéphanie Hocher, qui a sorti Pacifique juste avant la fermeture. Et je serai accompagnée par la présidente de Vendredi Lecture pour pouvoir mettre un peu de lumière sur cet ouvrage. Je pense aussi aux petits éditeurs. Et ce soir, dans mon apéro littéraire, je vais mettre à l'honneur, sur les réseaux sociaux, je vais mettre à l'honneur une maison d'édition lilloise qui est la Contre-Allée. Avec Benoît, on prend souvent les sentiers de traverse. On se parle gentiment quand on a deux verres de Nero d'Avola dans le nez, mais entre deux, on aime bien se titiller, se chatouiller, se gratouiller. Et ce soir, je vais le mettre à l'honneur, lui, ses auteurs, parce que les petites maisons d'édition, parce que les auteurs ont besoin de nous, ont besoin de
et ouais, et qui se battent toute l'année pour défendre des textes.
Exactement.
Et on a publié en différentes tribunes, dont celle d'Antoine Gallimard dans la presse, qui alerte toutes sur la situation de la filière livre en France, en raison du confinement, mais aussi d'une situation qui n'était pas brillante avant. Y a-t-il des mesures spécifiques qui ont été déclinées pour les librairies ?
Alors là, pour l'instant, il y a des enveloppes qui sont dévolues à la librairie, donc il y en aurait une au niveau du CNL, mais au niveau du CNL, c'est pas la librairie, c'est la chaîne du livre et c'est 5 millions d'euros. Alors je vais te dire, avant que ça arrive à nous, il va pas rester grand-chose.
Pour donner une idée, je crois qu'en Allemagne, c'est 50 milliards qui ont été débloqués pour le domaine culturel.
Oui, c'est ça. En Allemagne, c'est 50 milliards qui ont été débloqués pour la culture. En France, c'est 22 millions.
Non, c'est parce qu'on veut toujours... essayer de copier le modèle allemand, donc si ça peut leur donner une idée, c'est pour ça que je cite un chiffre, c'est rare, mais voilà.
Exactement. Donc en Allemagne, on parlerait moins de culture, mais on agit beaucoup plus. En France, on a le mot culture avec un grand C dans tous les discours possibles et imaginables. On vous dit lisez, mais dans des discours très officiels du premier magistrat de France, mais malheureusement, ça s'arrête là. Moi, j'aime bien faire raconter des histoires aux chiffres. Ça a été 35 ans de ma vie professionnelle avant de choisir la librairie. Et je peux en faire raconter beaucoup. Et effectivement, ce qui est proposé aujourd'hui, par exemple, par la DELC, c'est bien gentil, mais dans leur message, ils disent qu'ils vont aider les librairies qu'ils ont aidées jusqu'à aujourd'hui, qu'ils aident aujourd'hui ou qu'ils ont aidées avant. Et les autres, voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour eux ? Rien.
Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste pour le secteur de la librairie ? Parce que si on croit tous les réseaux sociaux, les déclarations de bonnes intentions, ce sont des magasins essentiels pour tous les Français. Mais si on croit aussi les sondages, tout le monde regarde Arte et personne ne regarde la télé-réalité. Donc, il est bon d'avoir l'avis d'une professionnelle, si tu veux, pour voir ce qui en est dans la réalité, vraiment.
Alors, j'envisage la librairie assez différemment de mes confrères et de mes consoeurs. Je ne suis pas née dans le livre. Je suis née avec un livre à la main, en tant que lectrice, mais j'ai choisi le métier de libraire après 35 ans d'industrie. Donc, j'ai un modèle économique qui est un peu différent de mes confrères et consoeurs. Une chose en particulier, c'est on parlait du stock tout à l'heure. Le stock, c'est ce qui vient plomber un compte de résultat d'une entreprise. Un stock, il n'est pas là pour dormir, il est là pour tourner. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir bien calculer le livre qui rentre, est-ce qu'il est bien choisi pour ma zone de chalandise et est-ce qu'il va sortir avant que je l'ai payé. On paye une facture à un distributeur-diffuseur à 60 jours en librairie, puisqu'on n'a pas la loi de finances qui nous impacte, c'est-à-dire qu'on peut négocier et tu entends dans ma voix mon sourire, on peut négocier les échéances, c'est-à-dire que moi j'ai le mot négociation à la bouche, ça je suis née avec et je suis née là-dedans, et on ne doit pas payer à moins de 60 jours, sauf que ton livre, pour que ta trésorerie tourne, il faut qu'il soit vendu avant que tu l'aies payé, donc il faut que tu saches bien agencer tes stocks en nombre et en choix. Et ce qui aujourd'hui, à mon sens, tue la librairie, c'est le stock. Et surtout, le tsunami de nouveautés. Je dis bien le tsunami de nouveautés qui nous inonde continuellement et perpétuellement et dont on ne sait pas sortir la tête hors de l'eau. C'est absolument impossible. Donc, je pense qu'il y a un modèle économique de la chaîne du livre à revoir de fond en comble. Alors, je comprends tout à fait ce tsunami de nouveautés. Quand on sait qu'un livre, quand il se vend bien, c'est à 1000 exemplaires qu'il va se vendre, qu'il en sort tellement en France tous les ans que pour Place Ronde, si je prenais toutes les nouveautés simplement sur mon nombre de jours d'ouverture qui varie entre 280 et 285 jours par an, je devrais rentrer tous les jours 300 nouveaux livres. J'ai bien dit 300.
Ça fait beaucoup, hein.
C'est impossible. Donc, tu n'aimes pas les chiffres. Moi, je suis, voilà. Non, je suis née avec le mot négociation et le mot chiffre et j'adore leur faire raconter des histoires.
Non, j'ai rien contre les chiffres. Je les cite assez peu. Et, voilà. mais, par exemple, là, il va y aller se poser concrètement la gestion des sorties, toutes les sorties qui ont été différées. Alors, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de sortie en juillet-août. Enfin, ça commence fin mi-août, de troisième semaine d'août. Et donc, tous les livres qui ne sont pas sortis en avril et en mars vont sortir en mai et en juin.
Alors, pas vraiment. C'est étalé jusqu'en 2021. Moi, je commence.
Oui, c'est ce que je vois, oui. Il y a même des livres qui sont repoussés, s'inédiés, donc on ne sait absolument pas.
Ouais.
Donc là, il y a quand même. Ces livres-là n'auront pas d'existence.
Ben voilà. Il va y avoir la patrouille sacrifiée. Et ça, c'est bien triste. Mais je pense qu'aujourd'hui, on écrit beaucoup, tous et toutes. Et je pense qu'on devrait avoir un travail d'éditeur beaucoup plus pointu. Il y a vraiment des choses qui sortent de temps en temps qui ne sont pas travaillées, qui ne devraient pas être sur la table, sur les tables des libraires. C'est dommage parce que ça ne donne pas une bonne image de l'auteur, ça ne donne pas une bonne image de la maison d'édition. Je pense qu'on va trop...
Et du livre.
Et du livre. On va trop vite. On veut aller trop vite.
Sortir beaucoup trop.
Click and collect. Non. Prenons le temps. J'aimerais qu'une seule chose... J'aimerais deux choses pour le monde du livre. J'aimerais la première chose, c'est que on regarde... un petit peu le livre, effectivement, le mot essentiel m'a fait beaucoup sourire et parfois pleurer avec tout ce que j'ai entendu depuis un peu plus d'un mois. J'espère qu'il y aura une grande queue devant Place Ronde quand on pourra réouvrir de manière normale.
C'est tout le mal qu'on te souhaite, ouais.
Ouais, c'est ça, et je vais compter. Mais j'aimerais que ça donne une idée aux grandes maisons qui nous inondent, de bien repenser leur travail d'éditeur, de le repenser à l'aube de cette crise sanitaire qui nous fait tous revoir notre mode de vie. Et j'aimerais qu'on prenne le temps, qu'on arrête la course contre la montre. Les aiguilles, elles tournent pour tout le monde dans le même sens et au même rythme. Et j'aimerais que l'on voit le temps passer.
Ah, ça, c'est une belle phrase. Voilà. Est-ce que tu aurais un livre à recommander avant qu'on se quitte pour que les auditeurs puissent se le procurer bientôt chez leur libraire favori ou sur le drive? Est-ce que tu aurais un livre comme ça? Je sais que tu as lu beaucoup de polars pendant.
Alors, j'ai lu des polars dernièrement, oui, mais ce n'est pas un polar que je vais citer. C'est le livre de la librairie Place Ronde. Il s'appelle Galet. Il est de Mathieu Siam, qui est auteur-illustrateur. Il se lit de 1 à 130 ans, je crois qu'on ne va pas plus loin. Il est édité par Comme une Orange, qui est une toute petite maison d'édition qui se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un livre qui est très très cher à mon cœur et je vous invite tous et toutes à le lire parce qu'il y a des leçons philosophiques dans cet ouvrage. Et moi, je vais aller sur une phrase qui va être très forte, mais il m'a sauvé la vie il y a quelques mois de ça, en 2016, quand je n'ai pas pu retourner voir mon océan.
Ah bah alors, il faut absolument essayer
ça. Et ça a été un véritable...
Une bouée de sauvetage.
Une bouffée d'air, voilà. Et il est toujours à la librairie. C'est ma meilleure vente, évidemment, mais c'est surtout mon meilleur conseil.
Merci beaucoup, Fabienne. Ben, écoute, on va te souhaiter beaucoup de courage pour la reprise et puis tout ce qui peut t'arriver de meilleur et puis à Place Ronde également.
Merci, à bientôt et merci
et
à tous.
On va s'écouter un petit John Mayall, Medicine Man. C'est un album qui est sorti en 1968, Blues from Laurel Canyon. Merci beaucoup, Fabienne.
Merci à toi, à bientôt.
something I would never plan. Got a little trouble, help me any way you can. I'm out of circulation, take me to your medicine man. Loving is a gamble, never knowing who to choose. You find yourself a winner, then you find you pick to lose. I'm out of circulation, so take me to your medicine man.
C'était Medicine Man de John Mayall. Alors c'était notre façon de tirer un coup de chapeau aux soignants qui, après un an de grève, de matraquage et de gazage, ont obtenu le droit d'aller risquer leur peau dans les hôpitaux en piteux état, sans protection efficace, sous des applaudissements autrefois réservés aux gladiateurs dont certains espèrent qu'ils suffiront à calmer leur colère. C'est tout pour le moment, on va se quitter, c'est la fin de cette première émission confinée. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures et d'autres romans tout aussi passionnants. Bye bye. I'm out of circulation, so take me to your medicine man.